RCF.
Généralement, lorsqu'il y a un petit peu de musique comme ça à Vatican, c'est qu'on a dépassé et qu'on commence à paniquer. 18h10, le 18-19, en région, tout de suite, Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Émission...
Nous paniquer, ce n'est pas notre genre.
Oh, c'est pas notre genre, émission en direct avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims Ardennes. Fernand, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
On vous retrouve tout à l'heure, on va parler d'Assemblée Nationale. Bonsoir mon cher Robert, le mercredi. On vous retrouve dans une poignée de minutes parce que on est en direct, je crois Alexis, ce soir avec le cloître de la Maison Saint-Sixte où il y a un rassemblement avec des jeunes. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Effectivement, nous on va retrouver nos stagiaires à la rédaction, Manon et Kylian, qui sont trois étages plus bas dans le cloître de la Maison Saint-Sixte, puisque dans l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, eh bien, vous le savez, peut-être pas, mais il y a le marché de Noël de la Cato qui est organisé actuellement. Manon, Kylian, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, nous sommes sur place avec Kylian dans le cloître de l'ICP, l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. En ce mercredi se déroule le marché de Noël des associations. Les étudiants tournaient toute l'après-midi pour installer leur stand. C'est dans l'après-midi, d'ailleurs, nous entendons les ballons exploser en fond.
Oui, enfin, on n'entend pas bien les ballons, mais on vous entend en tout cas, Manon.
C'est dans l'après-midi, vers 15h, que cet événement a débuté et qui se termine très bientôt à 19h30. La plupart des associations étudiantes de l'ICP sont représentées, comme association, comme l'éloquence, l'association sportive et beaucoup d'autres. Ce soir, nous allons venir nous focaliser sur le stand du Club Radio qui anime l'émission Bulles étudiantes. Nous voici avec Carla.
Oui, bonsoir. Alors, je suis en direct du marché de Noël pour Bulles étudiantes.
Alors, Carla, que se passe-t-il aujourd'hui sur ce stand?
Alors, nous sommes arrivés dès ce matin pour préparer la pâte à crêpes et nous vendons des crêpes dans le but de récolter des dons pour RCF. Nous nous sommes préparés en groupe pour pouvoir vendre ces crêpes et faire un don à Bulles étudiantes qui nous accompagne pour les émissions RCF et remercier toute l'équipe.
Cette belle initiative vous tient à cœur, mais autre que Bulles étudiantes, pourquoi faire un don à RCF?
Et bah pour remercier toutes les personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année pour pouvoir faire nos émissions, qui nous accompagne, qui nous aide à former l'émission de A à Z et qui nous monte aussi nos émissions tout au long de l'année.
Merci beaucoup, on imagine que tous nos auditeurs vous soutiennent et espèrent le succès de votre stand. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Eh bien, une bonne soirée à vous. On vous souhaite bon courage pour cette initiative. C'est jusqu'à 19h30.
Il faut rappeler quand même, Alexis, que Manon et Kylian sont des stagiaires dont vous êtes le tuteur.
Effectivement. Et puis, on va les retrouver dans quelques instants en studio. Nos auditeurs en ont bien l'habitude. Ils présenteront des actualités à l'intérieur du journal. La météo tout à l'heure. Juste pour revenir à cette initiative, il y a la vente de crêpes aujourd'hui pour les étudiants de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, au sein du marché de Noël. J'ai entendu dire par certains membres de l'association qu'ils ont eu la main lourde sur la pâte à crêpes, qu'ils en ont prévu plus qu'il n'en faut quand même par rapport au nombre d'étudiants qu'il y a dans l'ICP, et que demain matin, on pourra de nouveau prendre le petit-déj à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, pour les étudiants qui arriveraient un petit peu en avance pour leurs cours. Et tout au long de la matinée, il y aura de nouveau une vente de crêpes, toujours au profit de RCF.
Alors on pourra accueillir même des invités de la radio qui viennent pour 10 heures éventuellement.
Eh bien, qui n'hésite
pas. Une petite escale.
Alors évidemment, par contre, tout ça, une contrepartie, c'est 1 euro pour 2 crêpes, Jean-Pierre.
En tout cas, il y a une très belle ambiance en bas. J'ai traversé tout à l'heure, ça dansait, ça chantait et ça mangeait des crêpes.
Eh bien oui, Robert aussi.
Oui, tout à fait.
Mais
oui.
Vous savez, les affaires sont les affaires.
Tout à fait.
Il faut quand même qu'on rentre, bien sûr, dans l'émission. Robert Auverger, bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir Jean-Pierre Benoît.
Alors, on retrouve votre chronique. S'il est un mot à usage multiple, c'est affaires au singulier et affaires au pluriel. C'est bien celui que nous allons évoquer aujourd'hui, le mot affaires, singulier pluriel, comme vous nous l'avez dit. Quel était son sens original ou singulier, le mot affaire?
Eh bien, le mot affaire est à l'origine un mot simple. C'est une affaire, c'est une chose qui est à faire, une chose qu'on doit faire dans le futur et volontairement. Alors, le verbe faire est un des mots les plus anciens et les plus courants du français au Moyen-Âge, par exemple. Et pendant environ 4 siècles, on disait un affaire au masculin, puis au XVIe et au XVIIe siècle, il était des deux genres, avant de passer ensuite uniquement au féminin.
Alors, pour quelle raison d'ailleurs?
Probablement parce qu'il se terminait par un E.
Alors, le mot affaire avait-il au Moyen-Âge un sens particulier?
Oui, il concernait particulièrement la vie sentimentale et galante. Quand un homme, entre guillemets, avait une affaire, c'était avec une jolie dame. Ensuite, au XVIe siècle, le pluriel, les affaires, s'est appliqué aux grandes questions d'intérêt public. Sans idée péjorative, les affaires sont alors celles de l'État, en particulier les affaires étrangères.
Comment le sens du mot « affaire » va-t-il évoluer, Robert ?
Eh bien, dans son dictionnaire universel, publié en 1690, Antoine Furetière, qui est un grand esprit du XVIIe siècle, consacre plusieurs pages à ce mot et à ses différents et nombreux sens, selon, bien sûr, comme nous l'avons dit, qu'il est au singulier ou au pluriel.
Ce qui est toujours le cas, en bref, quel sens avait-il au singulier ? Alors, au singulier, affaire sans S.
Alors, selon Furetière, toujours, une affaire était, je le cite, « ce qui peut occuper nos soins, nos pas, nos pensées, nous obliger à travailler, à aller et venir ». Alors, au pluriel, les affaires étaient des procès à instruire ou bien des dettes. Par exemple, mettre ordre à ses affaires signifiait alors payer ses dettes. Les financiers qui recouvraient les impôts pour le compte du roi étaient nommés les gens d'affaires.
À quelle époque ce mot, au pluriel, sera-t-il également appliqué aux activités financières?
Un peu avant la Révolution. C'est alors le début de la banque moderne qui pouvait, et qui peut encore d'ailleurs, faire vaciller lorsqu'il s'agit d'argent sale, la bonne réputation des affaires. Alors on empruntera à l'anglais la formule cynique, qui est d'ailleurs toujours au goût du jour, « business is business ».
Les affaires, évidemment, sont les affaires.
Oui, autrement dit, en affaires, il ne faut pas faire de sentiments. Alors ne venez pas nous casser les pieds avec votre morale, votre justice, votre humanité, quand l'argent est en jeu. J'avoue que ma traduction de l'anglais est un peu libre.
Oui, mais enfin, c'est une traduction qui correspond sans doute aussi à une réalité. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle politique, et Fernand d'ailleurs qui n'est pas très loin pourrait y réagir, on parle d'affaires au pluriel. Alors ça ne sent pas forcément bon quand on parle des affaires.
Et non, en effet, on trempe alors dans des affaires, ce qui sous-entend des pratiques illégales, des activités politiques immorales, souvent des scandales financiers qui méritent sanctions, ce qui amène les instances judiciaires à devoir instruire les affaires.
Alors revenons dans votre chronique, Robert, au mot lui-même, affaires, et à ses nombreux emplois au pluriel surtout.
Disons d'abord que c'est un des mots qui entre dans une foule d'expressions. Dans les dictionnaires, il fait partie des mots qui occupent beaucoup de place. Il a de nombreuses définitions, de nombreux synonymes, et donc lorsqu'il est combiné avec d'autres mots, de nombreux sens au singulier et au pluriel.
Vous allez évidemment nous donner quelques exemples de ces différents emplois du mot affaire.
Oui, par exemple, si quelqu'un est à son affaire, il pourra faire des affaires avec un homme d'affaires à la tête d'une grosse affaire qui présente un bon chiffre d'affaires. S'il s'affaire, et il sera certainement très affairé, il fera peut-être une bonne affaire, sauf si, entraîné dans une affaire louche, il a affaire à la justice qui instruira son affaire. Alors s'il s'agit d'une sale affaire, il s'en fera sûrement toute une affaire et il aura du mal à se tirer d'affaire.
Mais écoutez, on vous connaissait dans le théâtre à Paris. Je crois que là, vous pouvez faire un one-man show, une sorte de Raymond Devos là, avec le mot affaire. Alors voilà une affaire rondement menée, Robert.
Oui.
Vous nous disiez que le mot affaire avait de nombreux synonymes lorsqu'il est combiné avec d'autres mots. Quelques exemples?
Oui, par exemple, une affaire peut concerner, elle peut éclater, elle peut progresser, elle peut rebondir, elle peut traîner.
Affaire peut être également combinée avec un adjectif?
Oui, le nombre de sens est alors plus important que combiné avec un verbe.
Quelques-uns?
Oui, par exemple, une affaire peut être conclue, classée, complexe, compliquée, délicate, difficile, auquel cas elle n'est pas mince, dramatique, entendue, épineuse, grave, de routine, hors du commun, et j'en passe.
Alors la semaine prochaine, Robert Reverger, on vous retrouve. De quoi s'agit-il?
On parlera de délinquance.
Un mot, délinquance. Merci Robert Reverger d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et à bientôt sur RCF. À la semaine prochaine.
D'accord.
Le 18-19 sur RCF.
18h19, c'est le 18-19 en quelque sorte, à 18h19. Alors ils sont revenus, Didouard, Alexis.
Effectivement.
Alors vous avez mangé des crêpes, Didouard?
Ah, on n'avait pas le temps de manger des crêpes, il fallait revenir pour nos
le
missions.
Le boulot vous appelle.
C'est ça, mais le boulot avant tout.
Ils en ont mangé tout à l'heure quand même, hein, pour goûter.
Elles étaient très bonnes.
Fernand, vous seriez partant hein, pour
tout
manger
à fait.
Une petite
après
crêpe.
L'émission, ça dure encore jusqu'à l'heure, 19h30. Bon, on peut encore en manger une paire.
Vous allez parler d'affaires à l'Assemblée nationale
Pour l'instant, il y en a eu quand même dans les années passées. Hein, des affaires.
Y a, entre guillemets, il y en a un qui a dit ferme ta gueule, je ne sais plus à quel homme politique.
Oui,
ça risque de faire une affaire.
C'est toute une affaire qu'on a entendue toute la journée.
Ah oui, on pense à Gérard Larcher. Alors Alexis, quelle est la suite de notre programme ?
Eh bien la suite, Jean-Pierre, c'est toujours avec vous, évidemment. Un maire qui vous parle, c'est le rendez-vous à 18h20. Ce soir, on prend la direction de Puiseux dans les
Ardennes. Oui.
Avec Arnaud Bocquillon qui est en ligne avec nous.
Arnaud Bocquillon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous de découvrir votre commune, la commune de Puiseux. Alors est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous la présenter ? Le nombre d'habitants, comment sont ces habitants ? Des retraités, des jeunes, des agriculteurs ? Bref, vous avez la parole, monsieur le maire.
Présenter succinctement la commune, le recensement va avoir lieu le mois prochain, mais on est recensé à environ 115 personnes. Un petit village rural situé à une demi-heure de Charleville et on va dire 40 minutes de Reims, à proximité de l'échangeur de l'autoroute Guanic, ce qui nous donne un attrait, économique, parce que les accès routiers sont très bien desservis. Un renouvellement de la population a eu lieu sur les 15 dernières années, on va dire, de par la démographie naturelle. Et aujourd'hui, à l'âge de 47 ans, comme je dis tout le temps, je suis dans les plus vieux du conseil municipal, ce qui fait qu'il y a quand même un bon renouvellement.
Alors, monsieur le maire, je vous interromps, parce que dans beaucoup de maires que nous rencontrons dans les villages ardennais, il n'est pas rare d'avoir des gens très plus âgés, mais surtout en retraite, et qui se considèrent encore, et ils ont raison d'ailleurs, d'être encore jeunes, mais ils ont 75, 80. À 47 ans, vous êtes on est un peu familier sur RCF. Vous êtes presque un nourrisson, monsieur Bocquillon.
On pourrait dire des fois qu'on est considéré comme ça. Après, comme je vous ai dit, de par la force des choses, tous les personnes qui ont pu passer au conseil municipal, ils ont déjà donné, j'ai envie de dire. Et ce rajeunissement s'est imposé au cours des ces dernières élections, parce qu'il y en a qui rendaient leur tablier de par, on va dire, pas l'usure morale, mais on va dire peut-être un peu physique. Et ils avaient déjà donné beaucoup, donc on s'est trouvé un peu confronté à faire ce renouvellement et à s'engager. Tout simplement, on a bataillé, on n'avait pas trop le choix que de renouveler le conseil municipal et de faire en sorte que ça continue, quoi. Donc, si on veut que ça avance, il faut y aller.
Alors,
c'est pas forcément bon,
monsieur le maire, simplement, avant de venir à vous sur votre commune, cette population, est-ce qu'elle a aussi été renouvelée au niveau des habitants ? Il y a certains maires qui nous disent, mais c'est pas toujours le cas, avec le Covid, vous avez des gens qui ont aimé un peu plus la campagne, qui ont dit, on va quitter Charleville, on va quitter Sedan, on va trouver peut-être une maison à des prix plus abordables et on va venir à la campagne. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses où c'est vraiment pas partout pareil, quoi.
Non, mais on le ressent dans l'environnement local, de par l'engouement à l'achat. Il est clair que dès qu'il y a un bien à vendre, il ne reste pas très longtemps sur le marché. Il y a même des biens qui se vendent pratiquement sans annonce, de par le bouche à oreille et des choses comme ça. Enfin, c'est très rapide. En fait, nous, on a, au niveau de la commune, on a des logements locatifs appartenant à la commune. Ça reste pas vide, quoi. Ça ne traîne pas et on sent qu'il y a un attrait. Alors, je ne dis pas que moi, c'est dû au Covid. Je pense que c'est dû, je vous ai dit, à la proximité des axes routiers, qui fait qu'il y a une forte demande sur l'axe Reims-Charleville. Et dès qu'il y a, entre guillemets, une place qui se libère, elle est comblée. Moi, je le dirais plutôt comme ça.
Alors, monsieur le maire, vous-même, comment êtes-vous venu maire de Puiseux ? Est-ce que vous étiez déjà au conseil municipal avant, adjoint ? Vous avez fait votre parcours et puis on est venu vous chercher ? Ou c'est le sens des autres ? Rendre service ? Qu'est-ce qui vous a conduit à être maire à Puiseux aujourd'hui ?
Je vous avoue que c'était pas du tout à l'initiative de mes idées d'être au conseil municipal. C'est sur pas le mandat là, mais le mandat avant où je me suis, comme je vous ai dit, on a été un peu sollicité par nos prédécesseurs. Ils nous ont dit, ben maintenant, c'est à vous d'y aller, quoi. Alors, on réfléchit un petit peu, puis pas trop longtemps, parce qu'il faut bien qu'il y ait un conseil municipal qui tourne. Pour résumer, en fait, la crainte qui pourrait se faire, c'est que si on s'engage pas, pendant un temps, on parlait de fusion avec des communes voisines. C'est pas forcément une aberration, mais pour garder la maîtrise de nos investissements locaux, il est important que le conseil municipal existe. Donc c'est pour ça qu'on s'engage. Moi, sur le mandat d'avant, j'ai démarré adjoint. Et de par les petits mouvements de conseil municipal, je me suis retrouvé maire intérim. Et là, j'ai été renouvelé maire sur le mandat dernier, quoi.
Alors, il faut dire, monsieur le maire, que souvent, aujourd'hui, il y a des maires qui ne veulent pas rempiler parce que il y a beaucoup de responsabilités, plus qu'on ne le pense. Et dans cette émission, on le voit, c'est quand même beaucoup de travail. Combiner aussi une activité professionnelle et être maire, c'est pas toujours évident. C'est un peu votre cas, monsieur Bouquillon, Arnaud Bouquillon.
Oui, bah en fait, c'est un peu ça qui fait peur, parce qu'il faut arriver à concilier la vie de famille, concilier la vie professionnelle. Et j'ai envie de dire presque cette activité de responsable local, moi j'ai tendance à le dire que c'est la case loisir qui saute pour faire ça. Ça choque des fois certaines personnes quand il faut faire des dossiers de subvention, qu'on est confronté à des gens dont c'est le boulot et qui nous disent vous n'avez pas fait ça en temps et en heure, mais je leur dis écoutez, moi c'est mon loisir, quoi. Donc il est vrai qu'il y a des fois on défaille un peu sur, sur la responsabilité. Oui.
Alors, monsieur Arnaud Bouquillon, maire de Puiseux, on a envie de vous demander également à propos des communautés de communes. Celles-ci ont pris, bien sûr, du pouvoir, mais le maire, d'une certaine façon, il reste le patron, entre guillemets, dans sa commune. Le maire, on le reconnaît. Dans le monde d'aujourd'hui, on dit que les politiques sont très loin. Mais le maire, vous vous êtes interpellé dans Puiseux. Vous pouvez pas faire un pas dans le village sans qu'on vous arrête.
Moi, je me considère pas comme le maire. Je me considère un peu comme, je vais dire gentiment, le coach. C'est l'intermédiaire de des fois toutes les misères, mais des fois des choses très positives aussi. Et il faut un contact de toute façon. Donc voilà, après, c'est pesant en certains moments, certes, mais quand c'est interne à la commune, c'est pas forcément le plus pesant.
Pour terminer, M. Bouquillon, parce que le temps passe vite, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve aussi pour d'autres émissions. Quand il se passe quelque chose, une kermesse, une fête, quelque chose à Puiseux, n'hésitez pas à nous joindre et à me joindre. Et bien sûr, on parlera de vous. Est-ce qu'il y a un projet en cours qui avance, ou est-ce que vous avez un projet pour les mois ou les années qui viennent?
Dans les années qui viennent, on a pour projet de renouveler la toiture d'une grange communale qui sert de salle d'association, de rassemblements communaux et quoi que ce soit. Donc ça, on est amené à faire un investissement là-dedans. La petite chose qu'on vient de faire, un petit peu originale, je vais dire, c'est qu'on a planté un arbre qui est revenu sur la commune à l'occasion d'Octobre Rose. On l'a planté le jour de la Sainte-Catherine. Et c'était pour en souvenir des pertes de la commune dues au cancer cette année, étant donné qu'on en a eu 4 personnes rattachées au cancer qui sont décédées. Donc on a planté un arbre avec une belle cérémonie. Ça peut donner l'idée à d'autres maires de le faire aussi, quoi.
Absolument, ouais. Monsieur le maire. Et d'ailleurs, on est vraiment en empathie avec tous ceux qui sont touchés, bien sûr, par cette maladie. Et Dieu sait s'ils sont nombreux parmi nos auditrices, nos auditeurs sur RCF. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Malgré tout ça, malgré les difficultés que le maire doit porter dans sa commune, je pose la question à tous les maires. Donc, vous n'allez pas y échapper, Arnaud Bouquillon. Malgré tout ça. Est-ce que vous êtes un maire heureux de faire ce que vous faites dans votre mission de maire à Puiseux?
Oui, je me sens pas pesé par ça. Il y a des fois, si, on aura envie de dire on arrête. Mes gamins disent des fois, quand est-ce que tu arrêtes? Mais mon épouse leur disait, s'il fait pas ça, il fera autre chose.
Donc... En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire Arnaud Bouquillon, maire de Puiseux dans ce très beau département qu'est le département des Ardennes. Et on est bien sûr de tout cœur avec vous, avec votre commune. Et n'hésitez pas simplement sur RCF à nous joindre. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Et merci Jean-Pierre d'être avec nous en direct durant cette émission. Évidemment, dans quelques instants, il y aura le journal du magazine régional, mais avant cela, quelques rendez-vous pour la deuxième partie d'émission. On parlera en ce 6 décembre, journée assez spéciale, jour de la Saint-Nicolas, des us et coutumes, j'allais dire, de la Saint-Nicolas en
avec
région.
Avec Jacques Terray.
Avec Jacques Terray, que nos auditeurs connaissent bien, certainement sur RCF, plus particulièrement sur RCF France-Ardennes. Et puis, nous avons un invité en studio, Fernand Tavares.
Oui, alors Fernand, on va aborder ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y avait rien au Sénat. À l'Assemblée, deux, trois discussions, évidemment.
Bah, écoutez, on va commencer par le Sénat, qui n'a pas eu de question au gouvernement, effectivement. Cet après-midi, pourquoi? Parce que au Sénat, après l'Assemblée nationale, que fait-on? Comme à chaque fin d'année, on examine le fameux projet de loi de finances 2024. Bon, à part cela, on a beaucoup parlé du Sénat, ou plutôt du président du Sénat depuis ce matin. Et si vous regardez toutes les chaînes infos, que ce soit en radio ou en télévision, Gérard Larcher est devenu l'homme de la situation, mais pas que lui.
Jean-Luc
Mélenchon aussi. Eh oui.
Et ils connaissent très bien Jean-Luc Mélenchon. Ils connaissent.
Ils ont leur franc-parler, voilà. Mais quand même, là, c'est, disons que je ne dis pas que Gérard Larcher a poussé le bouchon un peu loin, mais enfin, il a été poussé. J'ai suivi l'interview pour dire à la fin, mais vous voyez, Jean-Luc Mélenchon s'en prend aux journalistes, en particulier les journalistes d'origine juive, etc. Et donc, le ton est monté comme ça. Je lui demande de se taire, puis au bout du compte, qu'il ferme sa gueule. Voilà, alors ça, évidemment, dans un personnage de l'État comme ça...
C'est récupéré, c'est le numéro 2 quand même.
C'est le numéro 2. Alors simplement, si on a en 30 secondes ou pas?
Oui, on a 20 secondes même.
Le président Gérard Larcher est sénateur depuis 1986. Dans la foulée, quelques années plus tard, est arrivé qui au Sénat? Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a été sénateur quelques années.
Donc ils
se connaissent. Les deux se connaissent parfaitement, ils se tutoient. Et je pense que ça va pas aller très loin.
Et s'il l'a dit, c'est parce qu'il connaissait aussi le personnage.
Oui, mais la France Insoumise en profite pour remettre Jean-Luc Mélenchon sur
le grill. Ils remettent dans le jukebox.
Et Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il doit pas être aussi malheureux que cela qu'on le reparle de lui. Ça le remet un petit peu à la une de l'actualité. Il en avait peut-être besoin.
On se retrouve dans une poignée de secondes, Fernand Tavares, ou dans une poignée de minutes, puisqu'il est 18h30. C'est l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudresse, qui est toujours, bien évidemment, en direct avec nous.
Les titres de ce mercredi 6 décembre 2023 à 18h31. Depuis le 2 décembre, les festivités de Noël sont lancées à Saint-Dizier. Certaines animations dureront jusqu'au 31 décembre, découvertes. Les élèves de première année de BTS du lycée Saint-Michel de Reims se mobilisent en faveur du Téléthon Rencontre.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
C'est la tendance, on le sent d'ailleurs rien qu'avec le marché de Noël à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims cet après-midi. Les fêtes de fin d'année approchent, leur ambiance chaleureuse aussi. La ville de Saint-Dizier a lancé samedi ses festivités. Jusqu'au 31 décembre, animations, spectacles musicaux et ateliers vont se succéder pour rendre cette période encore plus féerique. Tony Vaglio, adjoint à la mairie de Saint-Dizier, en charge de l'événementiel.
Comme à l'accoutumée au mois de décembre, Saint-Dizier devient un rendez-vous de Noël. Et bien sûr, nous aménageons la place Aristide Briand avec le village de Noël, le carrousel, puis le stand de churros qui est légendaire à Saint-Dizier. Mais vous allez avoir aussi la place des petites halles qui va s'animer avec des week-ends où vous allez découvrir des spectacles sur cette place. Et puis aussi la halle gourmande, vous savez, notre nouveau marché couvert de Saint-Dizier qui va vous proposer des offres commerciales exceptionnelles. À Saint-Dizier, on a la volonté de faire de Noël un vrai rendez-vous. Tous les week-ends, il se passe quelque chose à Saint-Dizier.
Village de Noël, ateliers, spectacles, concerts, le tout pour les petits, mais aussi pour les grands, évidemment.
Ces dernières années, Noël, c'était essentiellement tourné vers les enfants. Mais on voit bien que nos seniors prennent goût à sortir et ont envie de rendez-vous comme ça. Et donc, chaque semaine, il y a un spectacle que vous pouvez découvrir dans le programme qui est gratuit sur inscription. Donc, on pense aux tout-petits, on pense aux ados, mais on pense aussi à nos seniors qu'on occupe comme ça.
Et évidemment, ce mercredi 6 décembre, la cité Bragard n'oublie pas la fête de la Saint-Nicolas.
C'est une petite ruelle dans le centre-ville de Saint-Dizier qui paye pas de mine et que personne regardait. Nous, avec Saint-Nicolas, on a décidé d'en faire quelque chose d'assez sympa. On a peint les pavés en rouge et en or, on a mis des paillettes pour que ça brille, et puis des décorations lumineuses, ainsi qu'un sentier des contes, dans une toute petite ruelle qui va devenir, vous savez, les jeunes maintenant, ils aiment bien quand c'est instagrammable pour prendre en photo. Et bien, vous voyez, on a créé ce petit spot qui va, vous allez voir, ravir tout le monde, où on va pouvoir venir se prendre en photo, parce que c'est assez joli, et puis on rend hommage comme ça à Saint-Nicolas.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Un beau clin d'œil en ce jour de la fête de la Saint-Nicolas. Le programme des animations est à retrouver sur le site de la ville, saint-dizier.fr. Vous le voyez, vous avez entendu Manon Tony Vaglio qui parlait, il disait « ça met des paillettes ». Eh bien, il n'y a pas que vous qui mettez des paillettes, Manon. Tony Vaglio aussi.
Effectivement.
Et voilà, il y a des paillettes pour tout le monde, même pour les bragards. Pour rappel, demain soir, jeudi, à 20h15, un rendez-vous que l'on vous a déjà donné cette semaine, mais qui nous fait plaisir à annoncer, c'est au monastère des Clarisses de Cormontreuil. Les sœurs vous invitent à venir vivre avec la communauté, la veillée de prière pour la solennité de l'Immaculée Conception. Et puis, dans l'actualité également, c'est la Fondation du Patrimoine qui a annoncé les 30 nouveaux lauréats du programme Patrimoine et Tourisme Local, soutenu par Airbnb. 4 se situent dans le Grand Est, dont un dans la Marne, la Maison Bourgeoise à Montmirail. Tous bénéficient d'une dotation de 20 000 euros. Kylian, vous êtes avec nous. Ce matin, vous êtes allé du côté du lycée Saint-Michel de Reims, un lycée d'ailleurs que vous connaissez bien.
Effectivement, Alexis, et j'ai appris que les Bleus et Courlancy et Reims-Besançon organisaient un événement en faveur du Téléthon. Une vente sera proposée pour soutenir les efforts de recherche et d'aide aux personnes touchées par les maladies génétiques neuromusculaires. Les étudiants de première année du BTS Communication du groupe Saint-Michel ont aidé à l'organisation de cette vente. Un aperçu des événements planifiés, Maël.
Il y aura une vente de beignets, de chocolat chaud ainsi que de café. Et il y aura également une tombola avec plusieurs lots venant de plusieurs boutiques de Reims. Et la plupart des lots sont des gros lots.
Les tickets de tombola seront à 3 euros. Vous pourrez aller les acheter dans la clinique des Bleuets, Courlancy ou Reims-Besançon. Guillaume nous dévoile certains des lots.
Les lots de tous nos partenaires sont par exemple une pizza au restaurant It Trattoria en centre-ville, un bon pour un massage à You and Me Beauty sur Reims. Et il y aura aussi de nombreux goodies à gagner de la boutique Liu Jo, 10 euros de réduction offert à Pierre Menson Photographie, une bouteille de champagne.
Et bien d'autres. Et bien d'autres lots seront présents lors de cette tombola. Si vous souhaitez réaliser un don, il sera accepté tout au long de la journée. L'ensemble de la cagnotte sera reversé pour soutenir les efforts de recherche et d'aide aux personnes touchées par les maladies génétiques neuromusculaires. Vous pourrez participer aux différentes activités en vous rendant dans les cliniques des Bleuets, de Courlancy ou de Reims-Besançon entre 14h et 17h demain.
Merci Kylian pour toutes ces précisions. Avec les lots qu'il y a en jeu, Jean-Pierre, lorsque l'on vous dit un massage, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir.
Bah écoutez, oui, surtout que j'ai un peu mal.
Vous êtes coquet, Jean-Pierre.
Oui, il y a mon dos qui se bloque.
Eh bien écoutez Jean-Pierre, un petit massage, ça vous fera pourquoi pas du bien. Allez, ça jouait sur différents terrains de sport. Hier soir, c'est Manon qui nous avait annoncé les rendez-vous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos clubs locaux ont brillé, Manon.
Effectivement Alexis, en basket, les Flammes Carolo évitent le piège de Chartres en s'imposant 63-60 et accèdent au quart de finale de la Coupe de France féminine. Le Champagne Basket de son côté accède en finale de Leaders Cup Pro B suite à un match de retour bien maîtrisé contre Lille qui se solde sur un score de 80-71. L'Alliance Champenoise retrouvera en finale Vichy Clermont le 18 février. En volley, Chaumont domine 3-7 à 3 Paris dans un match à domicile qui permet aux Chaumontais d'être deuxième du classement.
3-7 à 0 plutôt. Pour Chaumont face à Paris, c'est 3-7 à 0, pas 3-7 à 3. C'est plutôt 3-7 à 0.
3-7 à 0, effectivement. Et puis évidemment, du football en Ligue 2. 3 s'impose face à Amiens, 2-0. Les Stacks remontent à la 13e place du championnat.
Merci Manon, on l'a compris, une très bonne soirée pour nos clubs donc. Et puis Jean-Pierre, si je vous dis David Guillon, ça vous dit quelque chose?
Bien sûr, c'est l'entraîneur, l'ancien entraîneur de Sedan, de Reims.
Oula, Jean-Pierre, attention.
Je crois qu'il va changer de club et qu'il est pressenti pour diriger l'entraînement de l'Estac.
Eh bien, mieux que pressenti, Jean-Pierre, il a été officiellement nommé entraîneur de Troyes ce matin, David Guillon. Inutile de vous dire que lorsque l'on connaît la rivalité dans le football avec les derbies que ça pouvait être entre Reims et Sedan ou entre Reims et Troyes en l'occurrence,
il était
ça
venu
fait parler.
Au fait RCF, David Guillon, je m'en souviens.
David Guillon était venu à RCF et puis il répondait régulièrement à nos sollicitations. Quoi qu'il en soit, maintenant, il répondra peut-être aux questions de Christopher Fausten qui va régulièrement du côté du Stade de l'Aube suivre les performances de l'Estac. En tout cas, on souhaite beaucoup de réussite à l'ancien coach rémois qui s'installe sur le banc troyen. Troyes qui est dans une période un petit peu trouble, mais qui remonte progressivement, comme nous l'a dit Manon. D'ailleurs, tout de suite, c'est la page météo et c'est toujours avec Manon Bréval. Quelles sont les tendances pour ce jeudi ?
Les tendances pour demain seront diversifiées dans les Ardennes et la Marne. Attendez-vous à un temps nuageux, des bandes brouillard à Épernay, un ciel voilé sur Vitry-le-François, mais également sur l'Aube et la Marne. Il fera frisquet demain matin avec des températures entre moins 1 et 2 degrés. Couvrez-vous bien. Les températures se réchaufferont, mais ce n'est pas encore le grand saut, avec des minimales de moins 1 degré et des maximales de 8 degrés. Un ciel couvert pour tout ce jeudi après-midi. Demain, les ambroises brilleront tout autant que mon pull à paillettes.
Eh bien voilà, merci Manon. Pour les auditeurs qui ne l'ont pas compris, vous aimez les paillettes. C'est un coup le pull, un coup le pantalon, parfois même les chaussettes. Enfin voilà, Manon, elle est très très paillette. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF, 18h39.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
On retrouve Fernand Tavares qui est en direct avec nous. On avait entendu, Fernand, que vous abordiez les deux ou trois sujets. On avait simplement évoqué ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi en disant que finalement, ce qui retenait l'attention de la plupart des médias, c'était plutôt les déclarations du président du Sénat, le numéro 2, Gérard Larcher. On y revient en quelques secondes, Fernand.
Voilà, simplement, c'est une passe d'armes qui a débuté ce matin sur RTL. Gérard Larcher, président du Sénat, était invité à répondre à des questions en direct. Petit à petit, l'accent a été mis sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et en particulier la façon dont il s'en est pris auprès de journalistes politiques, en particulier Ruth Elkrieff, journaliste d'origine juive. Et ça n'a pas du tout été accepté par les uns et par les autres. Ce qui fait que ce matin, le président du Sénat est monté au créneau en disant vraiment que Jean-Luc Mélenchon se tait, ce n'est pas possible, et excédé, au bout de l'interview, il a dit surtout qu'il ferme sa gueule. Alors, on en a parlé depuis ce matin. Je ne sais pas tout à fait si c'est un dérapage ou s'il a été poussé dans ses derniers retranchements. Bon, moi qui ai couvert le Sénat pendant un certain nombre d'années, le président du Sénat, Gérard Larcher, était simple sénateur en 1986, et Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est devenu sénateur quelques années plus tard. Autrement dit, les deux hommes se sont côtoyés pendant très longtemps. Et il y a une façon de se parler quand on est sénateur qui n'est pas du tout la même que lorsqu'on est député. On marche sur de la moquette, de façon au sens figuré. Donc Gérard Larcher et Jean-Luc Mélenchon se sont côtoyés. Ils se tutoient, ils se connaissent bien. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon lui en ait tenu rigueur. J'allais presque dire au contraire. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon a plutôt envie de se faire entendre. C'est ce qu'il a fait maladroitement. Et du fait que Gérard Larcher s'en prend à lui, ça lui donne une façon de reprendre un petit peu la main, d'activer un petit peu ses soutiens à la France insoumise aujourd'hui encore. À l'Assemblée nationale, beaucoup sont montés au créneau pour dire comment c'est scandaleux, un des personnages principaux de l'État prononce des mots comme ça. Bref, on parle, et après tout qu'on en parle en bien ou en mal, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est tout bon. Il revient à la une de l'actualité.
On imagine qu'à l'Assemblée nationale, on est quand même revenu sur les attentats islamistes.
On y est revenu comme on y est revenu les jours précédents. Pourquoi ? Parce que la première ministre, Elisabeth Borne, était là et qu'à chaque fois, sur cette affaire, elle est montrée du doigt. Elle est accusée en particulier par le Rassemblement national, mais aussi par les Républicains. Et elle était excédée, Elisabeth Borne, en disant « Écoutez, il ne faut pas profiter de cela pour faire de la politique ou faire de la politique politicienne ou se monter les uns contre les autres. C'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. » De même, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, est monté au créneau pour dire « On nous reproche de ne pas être assez attentif, de ne pas surveiller ceux qui sont dans la nature et qui sortent de prison. » Mais il a démontré aux uns et aux autres que depuis 4 ou 5 ans, eh bien par exemple, un certain nombre d'attentats ont été déjoués, en particulier 43 depuis 2017. C'est comme une affaire importante. Ça veut dire que les policiers, les inspecteurs, les enquêteurs sont sur le terrain. Alors maintenant se posent d'autres questions. Le corps médical est lui aussi montré du doigt. On dit comment les psychiatres peuvent-ils laisser dans la nature un prisonnier qui a fait 4 ans et qui tout d'un coup se remet à commettre des crimes. C'est mal connaître la justice qui elle aussi applique un certain nombre de règles. Et on ne peut pas mettre derrière chaque prisonnier qui retrouve la liberté un policier ou des gendarmes. Et pourtant, ça a été le cas puisqu'il était suivi. Malheureusement, à un moment donné, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Il a été certainement embrigadé par d'autres islamistes, on l'a bien compris. Aujourd'hui, il revendique. Et maintenant, le problème est le suivant. Est-ce qu'on peut protéger tout le monde ? Et là, il y a quand même quelque chose d'important. C'est que à Gérald Darmanin, certains députés lui ont reproché de ne pas assurer la sécurité de tout le monde. C'est à propos des journalistes qui sont menacés et auxquels on a mis une certaine sécurité de jour comme de nuit, en particulier à Ruth Elkrieff. Et Gérald Darmanin a dit « Attendez, si vous, députés de l'opposition ou partis de l'opposition, vous êtes menacés comme d'autres personnes, vous avez droit à une protection policière et je vous l'accorderai. Elle sera d'office. C'est la loi. De même, les religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs ou autres, s'ils sont menacés, ils auront droit à une protection policière également.
Alors, Fernand, effectivement, vous évoquez les attentats islamistes. On sent quand même une certaine anxiété hein, chez les gens aujourd'hui. On sent, alors on n'en parle pas trop, mais il y a les habits de lumière à Épernay vendredi soir. Ça rassemble énormément de monde. Il y a une protection qui est assurée. Enfin, il y a des services de sécurité en plus grand nombre ces jours-ci.
Oui.
Donc ça, c'est quand même important. Mais alors, quelle protection à prévoir et à venir, par exemple, pour les futurs Jeux Olympiques, on l'a évoqué.
Ah, obligatoirement. Hein. À propos de sécurité, ça part dans tous les sens. Vous le disiez, pour les fêtes de fin d'année, ça recommence, hein, en particulier dans des secteurs comme l'Est de la France, si c'est Strasbourg, où chaque année des centaines de voitures brûlent. Bon, M. Gérald Darmanin a expliqué qu'il y en avait quand même de moins en moins au fil du temps, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors le problème, c'est que la sécurité, ça interpelle tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule insécurité, qu'il y a plusieurs types de sécurité de la part de tout jeunes, de moins jeunes, d'hommes ou de femmes aguerris qui veulent en découdre pour créer en quelque sorte une certaine effervescence et mettre les uns et les autres en difficulté, en particulier ceux qui dirigent la France. Parce que faut pas oublier, moi je vous l'ai dit au début de l'année dernière, et certains vont dire « Ah, il faut pas parler de ça, c'est beaucoup trop tôt ». Non, parce que les élections européenne arrive à grands pas. Et déjà, au début de l'année, j'avais dit « Attention, tout ce dont on parle aujourd'hui, ça va être dans la perspective des européennes. Pas question de parler des législatives autres, on n'y est pas encore, ni des présidentielles, c'est beaucoup plus tard. Mais le prochain grand rendez-vous politique, même si c'est pas de politique intérieure-intérieure, sont quand même ces élections présidentielles où tout le monde a l'œil sur qui. Aux européennes, comme d'ailleurs à la dernière fois, sur le Rassemblement national. Le Rassemblement national, le Front national auparavant, s'en est toujours sorti avec de très gros scores. Est-ce que là, ils vont éclater les scores? C'est possible. Et c'est ce qui inquiète le gouvernement et en particulier la Première ministre. D'ailleurs, il y a eu une passe d'armes entre la Première ministre et Marine Le Pen à propos des gens que l'on doit expulser. Le thème est suivant. Est-ce qu'on peut expulser n'importe qui? Les binationaux, ceux qui sont français, même s'ils sont étrangers d'origine, mais ils sont devenus binationaux, c'est non aujourd'hui. Marine Le Pen a dit à la Première ministre, nous, si on revient au pouvoir, si moi je dirige la France, eh bien je ferai en sorte de faire voter une loi, soit par référendum, que même les binationaux fautifs soient expulsés.
On aura bien sûr l'occasion d'y revenir, Fernand. Alors évidemment, il y a aussi les déclarations récentes du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, tous azimuts, qui propose des plans pour remonter le moral, puisque le niveau dans plusieurs disciplines, dont les mathématiques et le français, sont quand même pas excellentes.
Et je dois dire que par rapport à tout ce qu'on vient de dire là à l'instant, ce qui a été le plus écouté par les uns et par les autres dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est les réponses et les directives annoncé par le ministre de l'Éducation nationale, M. Attal. Ça intéresse tout le monde, pourquoi? Alors évidemment, les enseignants disent « Oh là là, il va falloir qu'on se remette à faire beaucoup plus, il va falloir qu'on soit plus nombreux, etc. » C'est pas inutile ce qu'il a dit le ministre. Ça nous rappelle notre jeunesse et à vous aussi. Que dit le ministre? Ben, on est aujourd'hui devant le constat suivant, c'est que les Français, les jeunes Français sont moins bons en mathématiques, ils sont moins bons en français et qu'on a franchi un certain nombre d'étapes en oubliant que les uns et les autres ont des téléphones portables, ont des ordinateurs et que tout ce mélange qui fait que le reproche qui est fait peut-être, c'est que les uns et les autres manquent de recul, ne travaillent plus par eux-mêmes et sont entrés dans une certaine facilité. Alors il faut reprendre les choses par le début. Cours moyen première année, cours préparatoire, on commence par une sélection là. Et puis on arrive petit à petit à la sixième, où il faut également installer une autre façon de procéder. Et puis, alors ça c'est nouveau, on arrive vers la troisième. Tout d'un coup, voilà que le BEPC, c'est devenu quelque chose d'important à nouveau, et qui est en quelque sorte une porte de passage en seconde, ou pas du tout. Si on ne passe pas le BEPC, si on est parçu, ben on va peut-être vers un doublement, un redoublement. Le mot « redoubler », il y a longtemps qu'on ne l'a plus entendu. Ça fait peur à tout le monde, y compris aux parents d'élèves. Eh bien, après tout, les uns et les autres disent « Pourquoi pas ? Est-ce que c'est mauvais de redoubler ?» Peut-être pas, ça relance. Et puis, on n'aura pas le bac comme ça. En première, il faudra montrer que l'on est à nouveau capable ou à niveau en mathématiques ou en français. D'ailleurs, vous êtes bien concerné aussi par le problème, vous, ancien professeur de mathématiques. Comment vous avez reçu ça?
Ah ben c'est vrai, vous m'interrogez, Fernand. C'est vrai que le Covid aussi n'a rien arrangé parce que pendant un an ou deux, sur deux années scolaires, beaucoup d'élèves qui se trouvent aujourd'hui au niveau première année d'université ou deuxième année ou même terminale ont connu en classe de seconde ou en classe de troisième un peu avant ou en première des années quand même où il y avait forcément des trous dans la raquette car rien ne remplace le cours en présentiel, le cours en visio, comme on dit, il a ses atouts, il a ses... quand il n'y a personne, c'est tout de même mieux d'avoir quelque chose, mais ce n'est pas avec des cours en visio qu'on comprend beaucoup de choses. Ça ne remplace pas le cours avec un professeur en face de soi.
En tout cas, la mobilisation générale pour un nouveau style d'enseignement est pas trop mal passé au niveau des parents d'élèves qui s'inquiètent peut-être tout en se disant après tout c'est vrai que l'on pousse toujours l'enfant à aller dans la classe suivante alors qu'il n'est pas du tout préparé ou qu'il est moins bon qu'il ne devrait l'être, c'est pas plus mal et peut-être aussi ça va renforcer une certaine autorité des parents vis-à-vis de leurs enfants auxquels on redemande d'être attentifs en particulier au mode de réflexion des enfants, à la façon dont ils travaillent, dont ils écrivent. L'orthographe, bah oui, il faut revenir à des années et des années en arrière. Compter, savoir diviser, connaître les méthodes algébriques et autres, tout un boulot.
Merci Fernand Tavares qui était avec nous aujourd'hui, qu'on retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine Fernand, à mercredi prochain, 18h50 sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on vous laisse respirer quelques instants, juste le temps d'une virgule, Jean-Pierre, avant de retrouver un nouvel invité avec nous par téléphone pour parler des traditions de la Saint-Nicolas en région. C'est Jacques Terret qui est en ligne.
Jacques Terret, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Inutile de vous présenter à nos auditeurs qui connaissent RCF. Vous avez assuré de nombreuses années et vous continuez de nous donner un coup de main sur l'antenne de RCF. Vous êtes en direct avec nous d'Areux, dans le département des Ardennes. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Voilà revenu la fête du bon Saint-Nicolas, le patron des petits-enfants, toujours très honoré dans les Ardennes, tant françaises que belges, en Lorraine, dans le Nord. Et voilà que j'apprends, Jacques Terret, qu'il était évêque d'un très lointain diocèse de l'Asie mineure, bien loin de chez nous, au IVe siècle. Comment expliquer une telle présence dans nos mémoires, dans nos églises, dans nos traditions, Jacques Terret ?
Oh ben Jean-Pierre, c'est toute une histoire un peu rocambolesque, hein. Alors vous savez, du temps où les reliques des saints faisaient un commerce pas très catholique, il y a des moines de chez nous qui s'en allèrent voler ce qui restait du corps de Saint-Nicolas et ont ramené ces reliques à Bari, au sud de l'Italie. Alors, Saint-Nicolas était déjà le saint patron de la Sainte-Russie. Hein, et il devint, dans notre côté de la Méditerranée, eh bien celui des soldats, des marins, des bateliers de nos rivières et des petits-enfants. Alors, il faut évoquer la légende des trois petits-enfants mis au saloir, vous savez Jean-Pierre, par un boucher un peu particulier. Et ces petits-enfants... mis au saloir pendant 7 ans, rendez-vous compte, eh bien, ils retrouvent la vie grâce au Saint-Nicolas qui passait par là.
Et donc, c'est formidable.
C'est formidable. Et il devient le saint protecteur de tous les enfants. Alors, ressuscité, le premier dit, d'après la légende et le célèbre chant, hein, le premier dit « J'ai bien dormi ». Et les seconds dit « Et moi aussi ». Et d'ajouter le plus petit « Je me croyais au paradis. »
Alors, cette histoire avec les enfants, ça a donné naissance à tout ce qu'il y a autour de Saint-Nicolas, qu'on fête avec les enfants. On retrouve d'ailleurs Saint-Nicolas dans la statuaire et les vitraux, dans les églises de Lorraine, par exemple.
C'est extraordinaire. Si vous passez en Lorraine, alors il y a la vieille chanson « En passant par la Lorraine avec mes sabots », hein, vous la connaissez ?
Oh, bah absolument.
Si vous passez en Lorraine... Rares sont les églises qui ne possèdent pas un petit Saint-Nicolas en habit d'évêque et à ses pieds un tonneau où il y a les trois petits-enfants. Il y a des vitraux, il y a des statues, il y a des peintures. Et la Lorraine s'est emparée, mais d'une façon extraordinaire, s'est emparée de ce saint. Et à preuve, À Saint-Nicolas-de-Port, il y a une basilique merveilleuse qui est totalement restaurée grâce à une Américaine qui avait beaucoup de sous et qui était native de Saint-Nicolas-de-Port. Eh bien, vous trouverez là le cœur de la Lorraine confié à Saint-Nicolas.
Il faut penser nous aussi à nos amis du diocèse de Reims, hein, Saint-Nicolas de Rethel. Hein. On a un Saint-Nicolas Rethel, hein, Saint-Nicolas de Rethel. Alors, bien sûr, vous venez de le dire, Jacques Terray, il y a la légende avec les trois petits-enfants mis au saloir, qui a fait beaucoup pour la popularité de Saint-Nicolas, et le passage du bon Saint-Nicolas de maison en maison. C'était devenu une tradition. Alors vous, vous avez bien connu tout ça, hein, Jacques.
Ah, et vous aussi peut-être,
Ah ben oui, aussi, moi aussi.
Alors,
oui.
On laissait, avant d'aller dormir, à la veille de ce 6 décembre, on posait sur la table de la cuisine, ou devant la cheminée, ou sur une table, on posait un bol avec une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas, car on savait qu'il allait passer la nuit, hein, et on pouvait aussi poser ça dans ses chaussons. Hein, et en se réveillant le matin, eh bien, on trouvait des petits sucres rouges, une grande spécialité des Ardennes qui revient en force sur les marchés de Noël. Les petits sucres rouges et puis des pains d'épices, c'était le bonheur. Il fallait pas plus à ce temps-là pour retrouver le bonheur. Hein. Et alors, chose extraordinaire, dans mon petit village d'Areux, eh bien, comme d'habitude, il va passer habillé de ses beaux vêtements d'évêque et accompagné de son âne, un âne en chair et en os, si je peux dire, et il va aller de maison en maison, hein, récompenser les petits-enfants sages, et peut-être sera-t-il quand même accompagné du père Fouettard. Vous savez, le père Fouettard, il avait la réputation de débusquer les enfants pas sages, ou peu travailleurs à l'école. Alors, il avait un martinet quelquefois, hein, mais le bon Saint-Nicolas s'empressait quand même d'être un peu plus objectif et de récompenser tous les petits-enfants.
Il faut rappeler, Jacques Terray, que cette habitude, cette tradition de Saint-Nicolas, elle est très puissante, peut-être plus d'ailleurs en Belgique, en Allemagne, mais on a l'impression, puisque vous dites que ça existe à Areux, là, que c'est en train de revenir un petit peu.
Oui, c'est sûr. Je sais qu'à Sedan, par exemple, Charleville, je ne sais pas, mais Sedan, il y a un passage de Saint-Nicolas dans les rues. Il y a des villages qui ont conservé cette tradition. Alors, c'est très sympathique parce que il est attendu toute l'après-midi, si vous voulez, à Areux, dans les maisons. Et ça permet des échanges singuliers, des rencontres avec des enfants qui montrent de l'intérêt, qui ont un petit peu peur, mais qui promettent d'être gentils toute l'année, si je puis dire. Alors, c'est une tradition qu'il ne faut pas perdre. Alors, j'évoque ces petits bonbons rouges parce que c'est une spécialité de Bonny-sur-Meuse. Hein, il y a une famille, la famille Simon, qui se met au travail et qui remplit des petits sachets de petits sujets et sucre rouge impose, hein, des petits sabots, des petits sapins, des petits moutons. Vous voyez, et pour les Ardennais que nous sommes, c'est très important. Alors en Belgique, la Saint-Nicolas est aussi l'objet d'une réunion de famille. Hein, très souvent, les parrains, les marraines, les grands-mères, les arrière-grands-mères, les grands-parents sont invités à un repas festif et frontalier que je suis et de famille belge. Hein, je suis toujours amateur des deux côtés, de ce Saint-Nicolas qui passe dans le village et puis des familles rassemblées.
Merci en tout cas Jacques Terray d'avoir été avec nous aujourd'hui en ce jour de la Saint-Nicolas. Et puis on associera Hubert Neveu qui nous a quittés mais qui nous écoute, hein, qui est toujours avec nous. Hubert Neveu qui vous a longtemps interrogé dans ces fameuses balades en Ardennes qui nous ont si souvent entraîné sur les chemins bien fréquentés de ces départements.
Hein, extraordinaire. Durant 24 ans.
Durant 24 ans. Ben écoutez, Jacques Terray, moi je vous propose de revenir un peu plus souvent. Là, je sais que vous allez revenir de temps en temps sur RCF. On vous souhaite une très bonne Saint-Nicolas. Au revoir, Jacques Terray. Au revoir, Jacques.
Au revoir,
à bientôt.
Jean-Pierre.
Effectivement, une très bonne Saint-Nicolas à tous nos auditeurs. Il est bientôt 19h, c'est peut-être l'occasion de rentrer chez vous et de voir si les chaussures que vous aviez laissées devant la cheminée ou dehors ont été remplies de friandises. Manon, vous avez laissé vos chaussures vous-même devant la porte de l'internat finalement ?
Finalement, non, il a un peu plu cette nuit, je ne vais pas vous le cacher.
Oui, mais dans la porte de l'internat, il ne pleut pas, il n'y a pas des fuites à Saint-Jean-Baptiste quand même.
Alors,
expliquez-vous, expliquez-vous rapidement.
Ça, c'est une question un peu plus compliquée. Bon, le bâtiment est très ancien.
Bon, on ne veut pas révéler ce genre de choses. On espère que vous dormez dans de bonnes conditions. C'est le principal. Kylian, qui dit Saint-Nicolas, dit friandise ce soir à la maison.
Absolument.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite de vous régaler. Fabrice, vous êtes un grand enfant, vous êtes un gourmand. Est-ce que lorsque vous rentrez à la maison ce soir, il y aura des chocolats qui vous attendent?
Mais écoutez, je vais voir. En tout cas, moi, j'ai laissé mes chaussures.
C'est une bonne chose. Si vous avez laissé vos chaussures sur place, on espère qu'elles seront bien garnies lorsque vous rentrerez et que vous aurez du chocolat à lécher, pourquoi pas. À très bientôt. Merci Fabrice Gironet d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 18h10 pour un nouveau magazine régional. On vous accompagne jusqu'à 19h, évidemment. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais sur les ondes de RCF. Merci Manon. Merci Kylian.
Bonne soirée.
Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité.